Bien, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je me présente, je suis David Lescot, j'étais le grand témoin de l'édition passée des Assises de la traduction, voilà, dont le thème était le temps. Et on m'a gracieusement demandé cette année d'animer un jeu que j'ai inventé il y a quelques années et qui s'appelle le jukebox littéraire. Voilà, donc c'est un jukebox. Je vais vous expliquer le fonctionnement de tout ça qui est assez sophistiqué, vous allez voir. Et en même temps, c'est un jeu, je crois, à la fois enrichissant et distrayant, il me semble. Mais avant tout, je suis très fier et très heureux de vous présenter le très beau plateau d'écrivains et traducteurs et traductrices qui est là et qui va jouer. Ce sont eux qui vont jouer, mais vous allez voir, vous allez participer aussi. Donc, merci de participer à ce jeu. Agnès de Sarthe. Écrivain, bien sûr, et traductrice. Yakuta Alika Vazovic. Traductrice et écrivain. Hervé Letellier, écrivain. Et membre de l'Oulipo, président de l'Oulipo, depuis 5 minutes. Voilà. Et Aline Schulman, traductrice. Alors, qu'est-ce que le jukebox ? Le jukebox est un jeu qui part du principe que dans une œuvre littéraire, dans l'œuvre littéraire d'un auteur ou d'un traducteur ou d'une traductrice, il y a à peu près de quoi satisfaire tout le monde, tous les désirs, toutes les demandes et toutes les envies. Donc, vous allez formuler une envie, vous allez mettre une thune dans le bastringue et on va essayer de satisfaire cette envie. C'est-à-dire que je vais désigner parmi vous quelqu'un qui a envie d'entendre quelque chose. Il va l'adresser, cette demande. Ensuite, dans un temps assez court, que j'essaierai de meubler comme je peux, les auteurs, traducteurs, traductrices vont chercher dans leur œuvre complète, alors l'œuvre qu'ils ont écrite ou l'œuvre qu'ils ont traduite, de quoi répondre à la demande. Ensuite, ils liront chacun le fruit de leur recherche, leur pêche. Et puis, parce qu'un jeu, évidemment, c'est intéressant si jamais il y a un enjeu, il y a des gagnants et des perdants, eh bien, vous voterez. Et de manière extrêmement précise, je recueillerai les votes. Et ensuite, on verra ce qu'on fait avec. On décernera sans doute un prix du public et puis peut-être un prix du jury. Le jury, c'est moi. Je verrai. Pour ce qui est du scrutin et du palmarès, je me réserve encore disons le droit de faire évoluer les choses en cours de partie. Voilà. Alors les demandes c'est un peu à la sauvage, c'est comme dans un bistrot, quoi. On met quelque chose dans le bastringue. Vous êtes les consommateurs en fait, et puis nous on est le jukebox. Enfin, ce sont le jukebox, hein. Moi je suis juste le patron du rad en fait. Et vous allez formuler une demande. Je vais dire qui a envie d'écouter quelque chose. Donc, certes, des mains vont se lever. Moi, de manière un peu aléatoire, un peu instinctive, je vais désigner quelqu'un et je vais écouter sa demande. Et puis, bon, je filtre un peu quand même parce qu'il y a des demandes qui sont exubérantes parfois ou pas assez, ça dépend. Ensuite, je confie ça aux auteurs qui vont chercher dans leur œuvre fiévreusement, frénétiquement. Et puis ensuite, qui vont lire les textes qu'ils ont trouvés. Alors, quel type de demande ? Des demandes. Réfléchissez. Je vais vous laisser un petit peu réfléchir à ce que vous avez envie d'entendre. Mais voilà, c'est ce que vous avez envie d'entendre maintenant. Si un jukebox contenait de la littérature, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Voilà. Alors, ce n'est pas le titre d'une œuvre, hein, ça peut être une demande. Moi, je ne sais pas, il y a quelques années, j'avais eu des choses assez belles. J'avais eu, par exemple, les larmes des hommes. On m'avait dit les larmes des hommes. Alors j'avais scanné rapidement mon œuvre complète, comme ça. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, donc ça allait assez vite. Et j'avais sorti la chose qui me semblait le mieux répondre à cette demande des larmes des hommes. Mais ça peut être, je ne sais pas... justement, à vous de réfléchir un peu, à vous de formuler ça de manière un peu, poétique, attrayante, excitante, stimulante, motivante, déprimante, enfin bon, voilà. Et alors, pendant ce temps, bon, bah, moi, je ferai musique d'attente, en fait, pour laisser quand même le temps, parce que c'est une performance, il faut quand même que vous ayez conscience de ça, c'est extrêmement angoissant, extrêmement stressant de chercher comme ça dans son œuvre, d'essayer de répondre qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir, etc. Et donc, ils ont le courage et la grande bravoure, la grande gentillesse aussi de se plier à cet exercice. Moi, je leur en suis très, très reconnaissant. Est-ce que c'est clair à peu près le fonctionnement de tout ça? Ça va? Est-ce que pour vous, ça va aussi? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que tout le monde est prête? Voilà. Bon, parfait. Alors, est-ce que vous avez réfléchi un peu à ce que vous auriez envie d'entendre? Est-ce que des gens ont des idées un peu comme ça, a priori? Oui, par là. Je repère. Oui. Vous diriez quoi, madame, par exemple? Une déclaration d'amour, c'est pas mal. Une déclaration d'amour. Moi, ça me semble assez bien. Pour commencer, c'est parfait. Une déclaration d'amour, c'est parfait. Eh ben, écoutez, on va partir là-dessus. Continuer à réfléchir pendant le temps de l'attente. Alors, pendant le temps de l'attente, donc ça c'est extrêmement important. Moi, je vais avec une déclaration d'amour aussi. Alors en fait, c'est pas n'importe quelle déclaration d'amour, c'est une déclaration d'amour qui est née l'année dernière pendant ces assises de la traduction. Il y avait une traductrice, Nathalie Koble, qui est spécialiste de littérature de la Renaissance et littérature médiévale, qui s'intéressait beaucoup à un certain nombre de textes et qui notamment a écrit un livre sur les Valentines, sur ces déclarations d'amour justement que sont les Valentines. Et moi, je me suis amusé, et puis on a échangé en cours d'année comme ça, à faire une traduction de la Valentine la plus connue, qui est un standard de jazz qui s'appelle My Funny Valentine. Voilà. Alors, vous connaissez My Funny Valentine, hein, ça fait My Funny Valentine, Sweet Comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Bon, vous connaissez. Non, mais je vais vous faire en français. Je vais vous le faire en français. Bon, là, ils rêvaient que je le fasse en entier parce que, du coup, ça leur donnait plus de temps. Mais je vais le faire assez lentement, comme ça, ils auront suffisamment de temps pour trouver les textes. Alors, en français, donc, cette traduction que j'avais commencé à faire, et avec le concours de Nathalie Koble, et aussi de Yann Cambrelin, qui a suggéré quelques améliorations dans la traduction que je leur avais proposée, ça donnait quelque chose comme ça. Ma drôle de Valentine, douce comique Valentine, tu me fais sourire de grand cœur. Your looks are laughable. Ton allure excentrique, antiphotogénique, tu es mon œuvre d'art favori. Ça, c'est assez joli, je trouve. Ton visage langage hellénistique et ta bouche fragilistique. Copyright Yann Cambrelin. Quand tu l'ouvres, quand tu t'expliques, comme c'est chic. Ne change rien pour moi. Si je compte un peu pour toi, reste ma Valentine, reste. Chaque jour est la Saint-Valentine. Merci beaucoup. Eh bien alors, j'ai l'impression que tout le monde est prêt, non ? Vous avez trouvé ? Alors Aline, vous souhaitez commencer ?
Tiré de Don Quichotte. Don Quichotte était toujours plongé dans ses douces pensées quand l'heure pour lui fatale où devait arriver l'Asturienne arriva. Et tel était l'aveuglement de notre pauvre gentilhomme que ni le contact, ni la laine, ni d'autres particularités de la bonne fille qui aurait fait vomir tout autre qu'un muletier ne pouvaient lui ôter ses illusions. Il croyait tenir dans ses bras la déesse de la beauté. Aussi, la pressant bien fort, il lui dit amoureusement à voix basse : « Belle et noble dame, j'aimerais pouvoir payer de retour l'insigne faveur que vous me faites en dévoilant à mes yeux votre beauté sans égale, mais la fortune, qui jamais ne se lasse de persécuter les gens de bien, m'a jeté dans ce lit moulu et brisé, de sorte qu'il me sera impossible, malgré tout le désir que j'en ai, de satisfaire le vôtre. »
Oui, alors j'ai pris un extrait d'un livre qui s'appelle, un livre à moi qui s'appelle Assez parler d'amour, qui n'est qu'une déclaration d'amour à lui tout seul, donc je ne vais pas lire tout le livre, j'ai juste lire le, tout à fait la fin, qui est le moment où la personnage principale, on peut dire, se retrouve, alors qu'elle est restée avec son mari et qu'elle ne l'a pas quitté pour son amant, à une sorte de réception, où elle retrouve son amant sur une scène pour une cérémonie de remise d'un prix. À la fin du discours de circonstance, quand des musiciens klezmer, des amis d'Yves, monteront sur scène, Anna s'excusera, elle s'absentera quelques instants. Une fois seule, elle fouillera son sac, elle ouvrira une enveloppe très usée. Elle abrite un poème qu'elle a beaucoup relu. Un poème d'Yves. Je voulais écrire une villanelle sur le temps qui fuit sans laisser de traces, pour Anna qui part comme tourterelle. La douleur au temps parfois s'entremêle, et l'amour aussi, fragile et fugace, je voulais écrire une villanelle. Pour la vie qui vient, j'ai peu de modèles, il me faut en moi trouver de l'audace, pour Anna qui part comme tourterelle. Je ne crains l'éclair, le feu, l'étincelle, nos désirs abritent de nulle cuirasse, je voulais écrire une villanelle. Ce n'est qu'à la vie qu'on reste fidèle. Il faut, au désir, laisser de la place pour Anna qui part comme tourterelle. De ronces et chemins, d'osiers passerelles, dont l'ombre portée de Dylan Thomas, je vous laisse écrire une villanelle pour Anna qui part comme tourterelle.
Une déclaration très brève tirée d'un article de David Foster Wallace. Bobby Slayton, sosie de Dice Clay à la voix rocailleuse, persistait à présenter chaque actrice comme la femme pour qui je vais me couper la bite.
Agnès.
Un extrait de Une jolie fille comme ça de Alfred Hayes. Elle était devenue une ombre. Seule une substance plus chaude la différenciait des ombres. J'en avais tant dit, elle s'était tue si longtemps, la chandelle avait tant tardé à mourir, l'air de la pièce lui-même s'était à ce point chargé que, la serrant dans mes bras et oubliant un instant qui j'étais et qui elle était dans ce moment lesté, j'entendis quelqu'un murmurer « Je t'aime ». Quelqu'un qui se fondit en moi. Je me figeais. Elle semblait ne pas avoir remarqué les mots, ces mots qui avaient immédiatement acquis un écho persistant et désastreux, et respirait calmement, la tête sur l'oreiller, apparemment sourde à l'onde qu'ils avaient provoquée. J'avais été si prudent, infiniment circonspect. C'était elle qui avait traversé l'espace entre nous pour défaire les boutons, réticent, et je me dis qu'elle n'interpréterait pas ces mots de travers, qu'elle comprendrait les circonstances dans lesquelles ils avaient été prononcés. Elle comprendrait qu'ils avaient été adressés à quelqu'un qui n'était pas présent dans la pièce. Nous ne pouvions pas être l'un pour l'autre plus que ce que nous avions été jusqu'alors, une recommandation du médecin. Quoi qu'il en soit, je les avais dit. Et je pensais, cela compte-t-il ? Les mots s'étaient frayés un chemin entre mes lèvres scellées. Est-ce que cela comptait vraiment que je les ai prononcés, ici, maintenant, alors que je me l'étais interdit durant si longtemps ? Est-ce que cela avait la moindre importance de savoir à qui ils avaient été adressés et où ? Pourquoi le hasard les avait fait résonner sous l'esquisse si ambiguë de deux filles enlacées, nues et somnolentes, échangeant un regard si long de leurs yeux voilés ? Mes bras étaient bel et bien autour d'elles. Pourquoi pas ici, maintenant et à cet instant, pas plus propice, pas plus sincère ni plus éternel que n'importe quel autre instant providentiel ? Le dire, enfin, quelque part, je t'aime.
Merci beaucoup. Alors, on va passer au vote. Ah oui, on vote à chaque fois. C'est comme ça. Alors, on a le droit de voter qu'une seule fois. Hein, on est bien d'accord. Hein. D'ailleurs, pourquoi pas ? Pourquoi ? Non, oui, si, c'est mieux. On vote qu'une seule fois. A envie de réserver son suffrage, son vote à Aline Schulman. Très bien, c'est bon, j'ai compté. Ensuite, pour Hervé Le Tellier, c'est bien aussi. D'accord. Je vois. C'est bon. Alors, Yakuta. Très, très joli succès. Très bien. Et Agnès ? Eh bien, c'est serré. Hein. Ça nous promet une belle bagarre. J'aime bien. Ça nous promet une belle baston, c'est bien. Et mon vote à moi, je le garde secret. Voilà, moi, je le garde secret. C'est le prix du jury. C'est à la fin. D'accord, très bien. Alors, vous avez compris le principe. Donc maintenant, on va faire un deuxième tour de jukebox. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir un peu en même temps ? Vous étiez pris dans la lecture dans l'audition des textes. Alors, qui a envie de dire quelque chose ? Oui, mais vous êtes le témoin, vous. Alors, c'est pas. Vous avez le droit ? Ouais, je vous garde pour le troisième tour, d'accord ? Je vous garde pour le troisième tour. Peaufinez bien. Non, vous n'aurez pas oublié, je vous connais. Alors, allez. Allez, madame. Ah, la rupture. Rupture. On y va ? Rupture. Allez, rupture, c'est parti. Alors, musique d'attente. Musique d'attente, donc, en attendant ces textes de rupture. J'ai pensé, pour meubler cette attente, à un morceau que j'ai composé, un morceau de ma composition, qui prolonge un peu le thème précédent, qui était un peu esquissé dans certains des textes, mais c'est l'aspect plutôt érotique, en fait, de cette dimension amoureuse. C'est un texte sur les zones érogènes. Où elle est ta zone? Ta zone érogène, elle est où ta zone? Ta zone érogène à toi, elle est où ta zone? Ta zone érogène à toi, elle est où? Elle est où? Elle est où? Là? Où ta zone? Où se trouve ta principale zone érogène, ta zone? Où se trouve ta zone? Dis. Moi, combien t'as de zones? T'en as une, t'en as deux, t'en as mille, t'en as pas? Où est ta zone? Dis-moi, où se trouve ta principale zone érogène? Où est ta zone? Dis-moi, combien t'as de zones? Je te somme de me révéler où se trouve ta principale zone érogène. Quand on vit tous les jours ensemble, on a du temps pour se connaître. On explore, on découvre, on arpente, on guette, on prend son temps. On perd son chemin, ça marche, ça rate, ça marche, ça rate, ça marche, ça rate, ça marche, ça rate. Où elle est ta zone? Ta zone érogène, elle est où ta zone? Ta principale zone érogène, elle est où ta zone? Ta zone érogène, elle est où? Elle est où? Elle est où? Ça fait quoi là? Où ta zone? Où se trouve ta principale zone érogène, ta zone? Où se trouve ta zone? Dis-moi, où est ta zone? Je te somme de me révéler où se trouve ta principale zone érogène. À force de se fréquenter tous les soirs, à force de se fréquenter par hasard, on se fait vibrer sans le faire exprès. On se fait du bien, on se donne du mal. Ça marche, ça rate, ça marche, ça rate, ça marche, ça rate, ça marche, ça... Mais ma zone érogène n'est pas sur moi. Ma zone la plus érogène est sur toi. Ma vraie zone érogène n'est pas sur moi. Elle est sur toi. C'est là, sur toi. Là où je pose ma bouche, là où je te touche, là où je pose mes doigts, ma bouche, mes doigts, mon doigt sur ma bouche, mon doigt sur ma bouche, et mon doigt sur toi. Et ça me remplit, et ça m'envahit, et ça me brûle le sang, et ça me brûle la bouche. Ça me produit un affect extrêmement érogène. Je suis un paysage extrêmement érogène. Je deviens une planète érogène. Je deviens un climat érogène. Je deviens un climat, une précipitation, une dépression, une embellie, une glaciation. C'est sur toi qu'est ma zone érogène, et c'est sur toi qu'est ma zone érogène, et sur toi qu'est ma zone érogène, et c'est sur toi qu'est ma zone érogène, et c'est sur toi qu'est ma zone érogène, et c'est sur toi. Voilà, petite musique d'ascenseur pour attendre les textes. Alors, on va faire dans un autre ordre. On va commencer par Yakuta. Si tu es d'accord. Rupture.
Il fut malheureux. Il fit ce qu'on fait dans ces cas-là. Il le fit, puis il dit l'avoir fait. Il raconta tout, sans réserve, fouissant sa mémoire comme une blessure, sans jamais réussir à y trouver le corps étranger, encore moins à l'extraire. Il déchira des photographies, donna des livres, des vêtements, coucha avec qui il put. Il fut cet homme fiévreux qui confesse sa vie dans des bars, des rades sinistres au sol collant qui portent tous des noms de femmes, des noms de belles étrangères mortes d'amour chez Carmen, chez Aïda. Cet homme aux yeux rougis qui parle aux inconnus, qui leur vide son sac et qui de son sac tire un jour, à l'aube, un marteau et le pose devant lui, entre les verres vides, puis le regarde sans savoir ce que l'objet fait là, ni depuis combien de temps il le transporte ainsi avec lui. Et bien entendu, son interlocuteur en sait encore moins, et un silence s'installe. Un homme mal rasé, qui déambule au petit matin dans les rues, marteau en main. Oui, pardon, c'est tiré de L'avancée de la nuit, qui est un roman que j'ai écrit.
Hervé ?
C'est un extrait d'un roman que j'ai écrit qui s'appelle « Je m'attache très facilement » et qui n'est là aussi qu'une immense rupture, donc ça tombe assez bien. Notre héros retourne à l'hôtel. Il dîne à la terrasse ensoleillée du pub d'un Thai Deluxe Chicken Curry. Le plat se révèle être une sorte de blanquette de poulet en plus fade. Il remonte dans sa chambre de son desk à la réception. La jeune Polonaise lui fait un signe amical, presque complice, mais la porte de l'ascenseur se referme. « C'est étrange, se dit notre héros, voilà une femme dont je pourrais tomber amoureux en quelques heures à peine. » Il a lu en elle une sincérité de l'instant, une malice sans calcul, sans feinte. Cette jeune femme sait qui elle est, songe-t-il, au point sûrement d'oser entrer sans crainte dans la peau d'une autre. Peut-être est-ce cette qualité de l'âme qui fait les grands acteurs. S'il osait, mais il n'osera pas, il irait déposer au pied de cette fille l'amour extravagant qu'il porte en lui pour une autre, l'équivalent sentimental d'un transfert de compte bancaire. Mais accepterait-elle le dépôt ? Notre héros s'allonge sur le lit, suit des yeux la moulure du stuc, les ombres du plafond. Il connaît le mal qui l'affecte, cette obsession amoureuse. Il ne la contracte, chose fort logique, qu'auprès de ces femmes qui se refusent à l'aimer. D'expérience, il pronostique une convalescence rapide, la guérison totale, les séquelles inexistantes, mais à l'heure présente, ce diagnostic rassurant ne l'aide en rien. La tête lui tourne, il s'assied sur le bord du lit, se lève, prend les clés de la voiture. Il ne veut pas patienter ici, dans cette chambre vide, où il avait prévu d'être deux. Il est une fois de plus au rendez-vous bien avant l'heure prévue. Quelle importance, puisque l'Écosse n'est plus désormais qu'un énorme sablier renversé dans lequel le temps refuse de s'écouler.
On fait Agnès.
Ben, j'hésite parce que j'ai deux candidats, alors c'est difficile. Bon, allez. Je prends mon premier choix. On a dit que c'était toujours le meilleur. C'est tiré d'un livre qui s'appelle Mission Impossible. C'est un livre pour enfants. Les personnages sont des enfants. Mais il y a un personnage qui est un poisson, qui s'appelle Jacques. Et il y a un personnage qui est aussi un enfant qui s'appelle Maurice. C'était le propriétaire de Jacques. Mais il a confié son poisson à Gisèle. C'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. Bon, le chapitre 7 s'ouvre sur... en fait, Jacques, le poisson, est mort. C'est très triste. « Tu sais, dit Gisèle à Jacques, tandis qu'elle le dépose dans un cercueil que Fiona a fabriqué à partir de la baignoire de sa Barbie salle de bain, c'est mieux en fait que tu sois mort chez nous, parce que au moins tu étais avec des gens qui t'aimaient vraiment. Maurice n'a même pas demandé de tes nouvelles quand il a appelé. Et c'est vrai qu'il aurait pu m'expliquer comment je devais m'occuper de toi en te déposant à la maison samedi dernier. Moi, si je confiais mon poisson à quelqu'un, même à quelqu'un de fiable, je lui raconterais tout en détail. Est-ce que tu es mort parce que je t'ai donné trop à manger ? Est-ce que j'aurais dû changer ton eau ? Mais non, répond Fiona en déposant des plumes et des paillettes sur le corps du poisson. Tu t'en es très bien occupé. Jacques devait être malade en arrivant ici. Tu t'es tellement bien occupé de lui qu'il n'est mort que 5 jours plus tard, alors que s'il était resté avec ce dégueulasse de Maurice, il n'aurait pas tenu jusqu'au mercredi. Gisèle est un peu rassurée par les paroles de sa sœur. Finalement, c'est pratique qu'elle soit surdouée.
À Alors là, c'est un texte de Juan Goytisolo, de Don Julian, Don Julian. C'est une rupture qui passe par une rupture métaphorique, bien évidemment, qui passe par un viol collectif. Du con, emblème national du pays de la connerie, de tous les connards qui s'enconnent dans le très connesque pays de la connerie connante, où tout est conifié et conalisé et s'achemine immanquablement vers le sacronissime con. Du con, symbole de votre congénitale connaison, connaissante et conséculaire, du confoutrage conicule et conneux de l'archiconique cognition conniprésente. Du con, mon con. Tu t'acharneras à fouetter le corps ensanglanté de la demoiselle, tu tortureras ses sens avec une cruauté baroque et hyperbolique, tu assisteras à ses efforts inutiles qui demandent grâce et pardon avant de s'abandonner avec une docilité bestiale au transport de ses bourreaux. Préparez votre aiguillon venimeux. Des vierges fécondées par de longs siècles de pudeur et de décence attendent impatiemment votre coup de corne. Leurs cuisses tendres, leurs seins morbides réclament à grands cris que l'on charge, que l'on morde, sauter sur l'occasion, violer le sanctuaire et la grotte, la citadelle et l'antre, l'alcazar, le bastion. Enfoncez-vous sans merci dans le creux, dans le con, dans le con, dans le con.
Alors évidemment, ce qui est bien dans le jukebox, c'est aussi l'art alors c'est l'art de répondre à la demande, mais c'est l'art aussi de détourner la demande. Hein, on a bien compris. Il y a quelque chose de l'ordre du détour, de l'art du détour. C'est assez beau, une espèce comme ça de pas de côté. C'est l'interprétation justement. Comment est-ce qu'on interprète la demande et comment est-ce que on y répond sans y répondre, en y répondant mieux que si on y répondait littéralement, avec une espèce de pas de côté comme ça. C'est pas mal, c'est assez artistique. Alors, on va passer au vote. Donc, qui vote pour le texte de Yakuta ? Très bien. Je note ça scrupuleusement, hein, avec la rigueur d'un huissier. Ensuite, nous avions Hervé. Hervé, joli moisson. Voilà. Agnès. À peine plus. Hein. C'est toujours aussi serré. Comment les départager? On verra. Peut-être le troisième tour permettra un peu de dégager, hein, des tendances, des leaders. Et enfin, le texte d'Aline. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. J'ai noté tout ça. Alors, on va faire un troisième tour. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le président? On y va? Un troisième tour, c'est bien? On est partant pour un troisième tour? Alors, allez, je vais quand même, je l'ai fait lanterner un peu tout à l'heure. Alors, dites-nous, madame. La langue de bois. Waouh. La langue de bois. C'est une belle demande, ça, quand même. La langue de bois. Oh. Alors, moi, je vais vous faire patienter. Moi, ce qui est bien, c'est que quand j'ai envie de répondre à la demande, je le fais. Et quand j'ai envie de faire autre chose, je le fais aussi. Puisque je suis le maître du jeu. Donc, je voulais vous faire écouter une chanson qui avait un rapport avec une chanson de ma composition aussi, qui s'appelle « La tristesse par l'angoisse ». Parce que c'est une chanson qui raconte une manière de se guérir de l'angoisse, une tentative désespérée, voilà. Comme l'humour est comme l'humour et la politesse du désespoir, comme on dit, et que c'est le thème de cette année. Je me suis dit que c'était une chanson qui pourrait trouver sa place ici. Alors, ça fait ça. Ça fait comme ça. Et mon remède contre l'angoisse, c'est la tristesse. La tristesse, ma tristesse. Mon seul remède contre l'angoisse, mon angoisse, c'est la tristesse, ma tristesse. Quand je sens se former en moi une boule, une boule constituée d'angoisse. Aussitôt, je la noie dans la houle de ma tristesse et ça passe. Tu m'angoisses, tout m'angoisse, tu sais, ma vie, les gens, la foule, le travail, les paperasses. Mais tout me rend triste aussi, c'est ça qui est cool. En tout cas, c'est ça qui est efficace. Car mon remède contre l'angoisse, c'est la tristesse. Ma tristesse, ma tristesse. Mon seul remède contre l'angoisse, mon angoisse, c'est la tristesse, ma tristesse. Contre l'angoisse, en général, les gens se saoulent. Ça marche, mais ça bousille le pancréas. Il y en a qui se défoncent, qui se défoulent. Moi, je préfère la tristesse à la vinasse. Pour être triste, voilà comment ça se déroule. Pense au temps, aux choses fugaces, au petit visage que t'avais quand t'étais enfant et que tu portais une cagoule. Au dernier soleil de l'été sur la terrasse. Car mon remède contre l'angoisse, c'est la tristesse. La tristesse, ma tristesse. Mon seul remède contre l'angoisse, mon angoisse, c'est ma tristesse, ma tristesse. Et si jamais je suis envahi par la tristesse, si jamais elle prend trop de place, à ce moment-là, je fais l'opération inverse. Je me guéris avec une bonne montée d'angoisse. L'une et l'autre, il n'y a aucune chance que ça cesse. Aucune chance que je m'en débarrasse. L'angoisse et la tristesse sont mes maîtresses. Quoi que je dise, quoi que je fasse, mon antidote contre l'angoisse, c'est la tristesse. La tristesse, ma tristesse. Mon antidote contre l'angoisse, mon angoisse, c'est la tristesse. Hélas. Merci pour ce petit moment de déprime. Nous allons écouter maintenant... En fait, vous allez très, très vite. Hein. C'est ça, j'ai l'impression qu'il vous faut, à peu près 5 secondes non, pour trouver des textes. Agnès, c'est beaucoup plus rapide que prévu. D'accord, c'est par contagion. D'accord, vous allez très vite. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est tranquille. Non, c'est bien de faire un peu de recueillir un peu les impressions aussi des participants parce que c'est pas si évident. Non, ça va. C'est bonne durée. Ok, super. Bon, alors on va écouter les textes. Alors Hervé, on y va.
C'est un extrait.
La langue de bois quand même. La langue de bois.
Ouais. C'est un extrait de moi et François Mitterrand, qui est l'intégralité de ma correspondance avec François Mitterrand. Alors, il est une des lettres à François dont je me souviens très bien. C'est celle du 4 janvier 1996. Après les fêtes du Nouvel An, j'avais eu un petit problème intestinal et je l'ai écrite du lit. Elle disait simplement, « François, j'ai appris que tu étais malade. Je te souhaite un prompt rétablissement. Je suis sûr que ça n'est rien et que tu seras bientôt sur pied. Moi-même, je suis un peu patraque en ce moment. Le transit, comme on dit. Je t'embrasse. Bonne année aux fêtes, ton ami Hervé. Le 8 janvier 1996, François Mitterrand disparaissait. Comme on l'imagine, j'en fus très affecté. La France disait adieu à un homme qui l'avait gouverné durant 14 ans, un record de durée dans l'histoire de la République. Un homme d'État, je crois pouvoir le dire, un des derniers de cette trempe. Le soir même, je rangeais avec précaution toute notre correspondance dans un carton à chaussures, témoignage précieux pour les générations futures. Quel ne fut pas mon ébahissement de recevoir le 26 mars 1996, précisément, une lettre sur papier en tête de l'Élysée. La voici, pour la première fois révélée dans son intégralité. Présidence de la République, Paris, le 24 mars 1996. Cher monsieur, votre lettre en date du 4 janvier 1996 vient de me parvenir et je vous en remercie. Ne doutez pas, cher monsieur, que vos remarques recevront toute l'attention qu'elles méritent et qu'elles seront prises en considération par nos services dans les délais les plus brefs. Je vous prie de croire, cher monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Le président de la République. Stupéfiant. J'ai reconnu d'emblée le style inimitable de François. Je retrouvais dans ce texte tant de tournures familières que je ne pouvais pas douter. François était vivant.
Agnès ?
Encore un livre pour enfants, Le monde selon Frintech. La véritable histoire des pyramides, selon Frintech, frère de Grandouk. Autrefois, les Égyptiens étaient des gens avec des cheveux longs, la peau marron, des grands yeux maquillés, et ils marchaient de profil pour être toujours élégants, alors qu'ils n'avaient presque pas de vêtements et des chapeaux bizarres en forme de quilles ou de bouteilles. Ça, tout le monde le sait. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est eux qui ont inventé le camembert. Le camembert est un fromage qui pue horriblement, surtout quand il fait chaud et qu'on n'a pas de frigo. Et les Égyptiens, ils vivaient dans le désert, là où il fait tellement chaud que même les chameaux parfois ont soif. Les Égyptiens, donc, étaient très élégants, savaient marcher de profil tout le temps et avaient inventé le camembert, mais ils n'avaient pas inventé le frigo. Au début de l'invention du camembert, ils étaient tout contents, c'était moelleux, et la croûte blanche faisait très jolie quand ils dessinaient des fromages sur leurs amphores. Sauf qu'au bout de quelques temps, ils ont découvert qu'ils avaient fait une terrible erreur en inventant le camembert, parce que ça s'était mis à tellement puer dans leur pays qu'ils ont cru qu'ils ne pourraient plus y vivre. Alors tu me diras, ils n'avaient qu'à arrêter de faire du camembert. Mais ça, Grandouk, c'est impossible. C'est comme la bombe atomique. Une fois qu'on l'a inventée, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas la fabriquer. Ils continuaient à faire des camemberts et à en manger, mais ils étaient très malheureux. Ils avaient du mal à conserver leur belle démarche élégante. Heureusement, un jour, un grand, grand savant qui avait voyagé partout, même en Hollande, pays des fromages, eut une idée géniale. La pyramide ! Bravo, Grandouk ! Après des nuits entières à calculer en comptant sur ses doigts, parce qu'à cette époque, tu le sais, il n'y avait pas d'ordinateur, pas même de machine à calculer, à peine un vieux boulier cassé. Je disais donc, après des nuits entières passées à faire des calculs tellement compliqués que même moi, qui sais tout, je n'ai pas entièrement compris, il a trouvé que si on construisait des triangles en pierre géants avec un labyrinthe à l'intérieur et qu'on y mettait les vieux camemberts, le pays s'arrêterait de puer. Et alors, Frintech, ça a marché ? Oui, Grandouk, ça a marché ! Mais au moment de l'invention des frigos, les pyramides n'ont plus servi à rien et peu à peu, les gens ont oublié à quoi elles servaient au départ. Seuls quelques érudits, comme moi, le savent encore.
À côté de ça, les quelques proverbes de Sancho vont sembler assez plats, mais ça ne fait rien. C'est Sancho qui parle avec la langue de bois de la sagesse populaire. Donc Don Quichotte vient de lui raconter n'importe quoi. Bref, Dieu va arranger tout ça, intervint Sancho, parce que Dieu donne la gale, mais il donne aussi des ongles pour se gratter. Et puis demain, il fera jour, et personne ne sait ce que l'avenir réserve. J'ai vu pleuvoir et faire soleil en même temps. Et tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un qui peut se vanter d'avoir mis un bâton dans la roue de la fortune ? Non, bien sûr. Et entre le oui et le non d'une femme, je ne me risquerais pas à mettre la pointe d'une aiguille, elle n'y tiendrait pas. Si vraiment Kittery aime Basile pour de bon et pour la vie, je lui prédis à mon Basile un plein panier de bonheur, parce que quand on regarde avec les yeux de l'amour, je me suis laissé dire que le cuivre ressemble à de l'or, la pauvreté à la richesse et la sueur à des perles fines.
Le sentiment domine que le meilleur moment de McCain, le plus humain de toute la campagne jusqu'à présent, a eu lieu à la réunion publique de Warren, Michigan, lundi dernier, durant les questions-réponses, quand un homme d'âge moyen, en veste de sport et béret, qui ne semblait en aucune façon sortir de l'ordinaire, mais s'est avéré être un malade mental, c'est-à-dire littéralement genre schizophrénie façon DSM-4, est venu déclarer au micro que le gouvernement du Michigan possède une machine à contrôler les esprits et influence les ondes cérébrales, et que même si on s'enroule dans des couches et des couches d'alu, avec juste des petits trous d'aiguille pour les yeux et la bouche, cela ne l'empêchera pas d'influencer nos ondes cérébrales. Et lui, il aurait voulu savoir si McCain, président, utiliserait la machine à contrôler les esprits du Michigan pour attraper les assassins, gracierait le Congrès et le dédommagerait en personne pour avoir été durant 60 longues années sous contrôle mental gouvernemental. Et si c'est possible, de coucher tout ça par écrit. La question n'est pas drôle. Le silence dans la salle est plutôt mortifié. Pensez comme il aurait été facile ici pour un candidat de blêmir ou de s'en mêler les pinceaux ou de demander à ses collaborateurs au regard d'acier de faire sortir l'individu. Ou pire, de se moquer du mec pour désamorcer l'horreur et la gêne de tout un chacun et pourquoi pas marquer des points humour auprès de la salle. La plupart des plus jeunes plumes se seraient alors sans doute évanouies direct de dégoût devant un tel cynisme, parce que le pauvre type est encore là au micro et regarde ardemment McCain, attendant sa réponse. Et cela, McCain, incroyable mais vrai, le perçoit. L'humanité du type, le sérieux qu'ont ses questions pour lui, et assure que oui, il le fera, il promet de se renseigner, et oui, il mettra quelque chose par écrit, même s'il croit que leurs opinions divergent quant à la machine à contrôler les esprits. Et en somme, il désamorce le fou et le traite avec respect, sans le prendre de haut ni feindre d'être lui-même schizophrène. Et il le fait si vite et si gracieusement, avec une honnêteté si foncière, que si c'est du chiquet, d'une quelconque manière, alors McCain est le diable en personne. David Foster Wallace.
Alors, on vote. Qui vote pour Hervé Le Tellier ? Ah ben là, tu t'es bien refait hein, sur ce coup. Ça, c'est bien, je suis content pour toi. Ensuite, c'était Agnès. Très bien. Oui, oui, je ne peux pas que j'oublie de noter tout ça, bien sûr, scrupuleusement. Alors ensuite, Aline. Don Quichotte. Très bien. Et enfin Yakuta. Et joli score également. Alors, on me fait savoir en régie qu'on a le droit à un quatrième tour. Vous confirmez ? Vous confirmez. Alors, on va faire un quatrième tour. Alors, vous savez quoi ? Je ne résiste pas. Si vous m'autorisez, je ne vais pas meubler l'attente de ce quatrième tour, mais je vais essayer d'y participer. J'ai très envie d'y participer. Je vais chercher mon œuvre complète à côté. Je joue avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça fait un texte de plus. Ça fait une musique de moins, mais ça fait un texte de plus. C'est rentable. J'espère. Alors, qui a une envie, une idée ? Alors, jeune homme. Éloge ou anti-éloge du chat ? Le chat. Oh. C'est parti. Alors, est-ce que vous y êtes? Tout le monde y est? Vous êtes d'une rapidité incroyable. Alors, allons-y. Qui commence? Aline.
Toujours dans Don Quichotte, hein, pendant qu'on y est. C'est les malheurs de Don Quichotte avec un chat. Je pense qu'à l'époque, les chats n'étaient pas particulièrement bien vus. Don Quichotte en était là de sa chanson qu'avaient écouté le duc, la duchesse, Altisidore et presque tous les gens du château, quand du haut d'une galerie qui donnait à plomb sur sa fenêtre, on fit descendre une corde à laquelle était attachée une centaine de grelots. En même temps, on renversa un grand sac rempli de chats qui avaient eux aussi des grelots plus petits attachés à la queue. Entre le miaulement des chats et le tintement des grelots, le vacarme était tel que le duc et la duchesse, qui étaient pourtant à l'origine de cette plaisanterie, en furent troublés. Et Don Quichotte, presque effrayé. Le hasard voulut en outre que deux ou trois de ces chats entrassent par la fenêtre de sa chambre. Et comme ils couraient en tous sens, on aurait dit qu'une légion de diables avait envahi les lieux. En cherchant à s'échapper, ils eurent vite fait d'éteindre les bougies qui éclairaient la pièce. La corde chargée de grelots ne cessait de descendre et de remonter. Quant aux domestiques, que l'on n'avait pas mis dans le secret, et ils étaient nombreux, ils ne comprenaient rien à ce qui se passait. N'écoutant que son courage, Don Quichotte mit la main à l'épée, envoya forces estocades à travers les barreaux de la fenêtre en criant de toutes ses forces « Arrière ! Maudits enchanteurs, arrière, vile canaille ! Je suis Don Quichotte de la Manche et tous vos maléfices ne peuvent rien contre moi. » Puis se retournant contre les chats qui couraient dans la pièce, il leur asséna de grands coups d'épée. Les pauvres bêtes se précipitèrent vers la fenêtre et s'enfuirent sans demander leur reste, sauf une qui, menacée d'un peu trop près, sauta au visage de Don Quichotte et s'agrippa à son nez avec les dents et les griffes. Celui-ci se mit à hurler de douleur. Bref, ils ouvrirent la porte avec un passe-partout. Don Quichotte. Mais le chat n'avait cure de ses menaces et serrait de plus belle en grognant. Pour finir, le duc l'arracha à sa proie et le jeta par la fenêtre.
Je vais lire trois contes extraits des contes liquides, qui sont des petits textes à moi. Les chercheurs du Ramin Agrobis Institute of Ethology, Égypte, ont prouvé que, contrairement à une légende tenace, ce n'est pas le chat qui joue avec la souris, mais l'inverse. La perversité masochiste de ces rongeurs est en effet, hélas, sans limite. En juin 2023, les progrès réalisés dans la compréhension du langage animal permirent aux chercheurs de l'Utah Ethology Institute de comprendre que les chats vénéraient un dieu, Gatadoudou, qui imposait comme interdit alimentaire la consommation de chair humaine. De ce jour, on se mit à lutter avec vigueur contre l'athéisme des chats. Et enfin, le dernier conte, si j'arrive à appuyer au bon endroit. Selon son biographe Hans Rundberg, le jour où le physicien Erwin Schrödinger amena pour consultation son chat chez le vétérinaire, ce dernier lui déclara qu'il avait une bonne et une mauvaise nouvelle à lui annoncer.
Un extrait d'une traduction en cours de Dave Babbitt. La chatte que j'ai eue durant la majeure partie de ma vie adulte s'est suicidée l'été dernier. On l'a enterrée sous l'abricotier derrière la maison de mes parents. Ce qui avait de si particulier avec Rosie, pour y voir clair, il me faudrait des années d'analyse et d'études d'anciens textes sacrés. Déjà, il m'a fallu prendre de la mescaline pour partir en pèlerinage dans le jardin et penser à elle. Là, à l'endroit où nous l'avons enterré à 1 mètre de profondeur, poussaient des mauvaises herbes. Pas des roses, juste des mauvaises herbes. J'ai ri forcément. Qu'est-ce qui aurait bien poussé du cœur de Rosie, sinon des mauvaises herbes? Elle est venue à moi à New York, offerte un jour par un poète à qui Frank O'Hara avait offert sa mère. Cette chatte a eu 3 chatons. L'un est mort très jeune d'une hémorragie crânienne. Le deuxième est en Arizona avec Betsy, l'ex-compagne de l'ex-batteur des Fugs. Et le troisième, c'était Rosie qui s'est plantée devant une voiture une bonne fois pour toutes en juillet dernier. Pauvre Rosie. Presque toute la première année de sa vie, elle l'a passée dans mon minuscule appartement de New York où elle n'a vu aucune autre créature que moi. Et je suis donc seule à blâmer pour sa personnalité incroyablement épouvantable, à moins que ce ne soit sa faute à elle. Je ne sais pas. Une fois qu'elle fut adulte et que je fus moi rentrée en Californie, ma vie telle que je la projetais revenait à passer encore 12 ans, parce qu'elle était en bonne santé et que les chats peuvent vivre jusqu'à 17 ans, à parier à cet animal, Rosie. D'une part, je n'ai jamais pu avoir des petits amis qui avaient des animaux, car Rosie perdait complètement la tête si une autre boule de poils s'approchait, surtout un chien, mais les chats la rendaient malade aussi. Et puis, à qui la donner ? Elle mordait, personne ne l'aimait, même les amoureux des chats ne supportaient pas Rosie. Elle avait un caractère de cochon et se plaignait d'une voix de siamois, de tout, tout le temps. La mère de Franco O'Hara était siamoise. Donc, mon avenir s'annonçait plutôt vieille fille, même si je n'avais au départ que 24 ans.
C'est toi qui finis ? Alors, je vais vous lire un extrait d'un texte qui s'appelle L'instrument à pression, qui est l'histoire d'un trompettiste, en fait. Et là, il a rencontré une contrebassiste. Il lui dit, t'as de la corne sur les doigts. Quand tu poses tes mains sur moi, tu sens quelque chose, tu dois rien sentir, c'est dur comme de l'os, c'est pas sensitif. Elle lui dit, quand je pose mes mains sur toi, l'important c'est que toi, tu sentes quelque chose. Alors dis-moi, est-ce que tu sens quelque chose ? Il lui dit, bien sûr, c'est peu dire que je sens quelque chose. Et pour lui donner le change, pour lui montrer qu'il comprend ce qui se passe, et simplement pour lui faire du bien, il se sert de sa bouche, il pose ses lèvres partout sur elle, il applique doucement sa bouche sur sa peau, et quand elle ruisselle pour la sécher, il fait courir sur tout son corps le souffle chaud qui sort de lui. Elle lui dit, ça va prendre des heures, j'espère que ça va prendre des heures, j'espère que ça va prendre des heures, tant que tu ne seras pas sèche et tant que j'aurai du souffle. Du souffle, elle lui dit, je croyais que c'était pas du souffle, je croyais que c'était juste de l'air. Il s'arrête et il recommence, ils se mettent à jouer l'un pour l'autre, il recommence et il s'arrête et il recommence. C'est très secret comme musique, presque inaudible, incroyablement lent, un peu déstructuré, très intéressant, moderne. C'est comme une danse immobile, pas faite pour être entendue, pas faite pour qu'on danse dessus. C'est pour personne. Ils savent plus si c'est de la musique ou si c'en est pas. T'es vraiment d'époque, ça joue plus, ça joue plus. Et ça lui plaît tellement à lui qu'il a l'impression d'avoir inventé un truc. Rien à voir avec le reste. Il se met à penser que ça pourrait durer éternellement. Il lui impose comme une discipline, une assaise, des séances sans fin. Il la tient. Il souffle pendant des heures et des heures, les yeux fermés. Quand il les rouvre, elle est toujours là. Elle le guette. Il lui dit, faut continuer à chercher. Faut continuer. Elle ne s'arrête jamais avant lui. Elle le suit jusqu'au bout à chaque fois. Il se dit qu'elle est entièrement avec lui, qu'ils sont ensemble. À l'intérieur d'elle, quelque chose s'endort. Le corps résiste. Ça joue des nuits et des jours. Elle se dit que bientôt elle n'existera plus, qu'il est en train de la faire disparaître, que l'espèce de musique qu'ils font l'intéresse largement plus, qu'il ne fait plus la différence. Parfois il sort, elle se réveille, elle est seule, et la porte est fermée à double tour. Il m'enferme, il me séquestre. Elle se dit, c'est la contrebasse ou moi. La contrebasse ne passera jamais par la fenêtre. La contrebasse reste. Et elle se fait la belle par les toits, une fois pour toutes, comme un chat sauvage.
Alors, pour terminer, un éloge des chats, la preuve de leur supériorité sur les chiens. Et puis, il sera aussi question de traduction. C'est incroyable ce qu'on trouve dans Les Frères Chats. Il n'y a que des livres pour enfants, mais bon, c'est pas grave. Tony et Mario étaient deux frères chats. L'un était blanc, l'autre était noir. Ils vivaient ensemble et c'était pratique parce qu'ils aimaient les mêmes choses. Regarder le football à la télé, lire le journal dans une chaise longue et surtout, chasser les souris. Le problème, c'est qu'à force, il n'y en avait plus. Les souris avaient quitté le quartier. Un jour, Tony eut une idée. « Je vais m'inscrire au club de golf, » dit-il à son frère. « Tu aimes le golf maintenant ?» lui demanda Mario. « Non, j'aime les souris. »« Je ne vois pas le rapport, » dit Mario. « Le rapport, c'est les trous, » s'écria Tony. « Dans les trous de golf, il doit y avoir plein de souris. » Mais, objecta Mario, le club de golf est réservé aux chiens. J'ai tout prévu, annonça Tony. Et il sortit de son sac un masque de caniche. Très ressemblant, dit Mario admiratif. Tu crois qu'ils vont marcher ? C'est sûr, répondit Tony. Les chiens, c'est pas très malin. En plus, j'ai appris à parler leur langue. Il suffit de rajouter ouf ouf de temps en temps. Mario souhaita bonne chance à son frère. Au club de golf, Tony fut reçu par un labrador très aimable. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda ce dernier. « Je voudrais m'inscrire dans votre Wouf-Wouf Club, » répondit Tony. « Que faut-il faire Wouf-Wouf pour ça ?»« C'est très simple, » dit le labrador. « Donnez-moi votre prénom et votre nom. »« Tony Caniche. » »« C'est très joli, très sonore, » complimenta le chien en écrivant sur son registre. « Il ne me reste plus qu'à prendre l'empreinte de votre patte. »« Aïe !» se dit Tony. « Une patte de chat n'a rien à voir avec une patte de chien. » Oups, fit-il, j'avais complètement oublié. J'ai rendez-vous pour mon toilettage dans 5 minutes. Je dois y aller, ouf, ouf. Je repasserai demain si ça ne vous dérange pas. Pas le moins du monde, répondit le labrador, toujours aussi aimable. À demain, monsieur Caniche.
Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est la fin de ce jukebox. Vraiment, je voudrais rendre un hommage extrêmement admiratif et reconnaissant aux 4 auteurs, traducteurs, traductrices qui ont participé à ce jukebox. Je crois qu'on peut vraiment les applaudir chaleureusement. Et donc après un décompte extrêmement scrupuleux, j'ai décidé d'attribuer 4 prix. Différents. Donc je décerne le prix de la littéralité absolue à Hervé Le Tellier. Je décerne le prix du détour poétique à Aline Schulman. Je décerne le prix d'interprétation à tous les sens du terme à Agnès de Sarthe. Et je décerne le prix de la réactivité foudroyante à Yakuta Alikavazovic. Merci beaucoup, bonne soirée, bonnes assises et à très bientôt.